Après 9 ans sur place, l'armée française a quitté le Mali ce 15 août. L'état-major français a annoncé ce lundi le départ de derniers soldats français de l'opération Barkhane du territoire malien, près de 10 ans après le début de l'occupation de la France dans ce pays. Selon l'état-major de l'armée française, a précisé donc que l'évacuation de la base française de Gao, qui était la plus importante au Mali, s'est achevée en moins de 6 mois, la période initialement prévue, après quoi les troupes françaises se trouvaient être illégalement donc en territoire malien. L'état-major de l'armée française a déclaré que cette base a été remise ce lundi à l'armée malienne, mettant ainsi fin à 9 ans de guerre contre les groupes armés au Mali. Partout en Afrique, l'influence de Paris recule à mesure que celle de Moscou ou encore de Pékin augmente. Une occupation des pays, donc des plus effroyables selon certaines informations. En janvier 2013, il est vrai que le peuple malien avait accueilli le président français et ses troupes militaires en héros, croyant qu'ils étaient venus au Mali pour libérer le peuple de la menace terroriste. Et dans les médias mainstream et également dans les discours des occupants de l'Élysée, on lit et on entend souvent le même refrain. En 2013, c'était à la demande du gouvernement malien que la France est intervenue. Si le peuple malien savait sous quelles conditions les militaires français allaient intervenir, il est clair qu'il n'allait jamais accepter cette intervention. Pour rappel, en 2013, le gouvernement malien avait seulement demandé un appui aérien pour repousser les terroristes qui descendaient jusqu'à Bamako. Et c'est l'Élysée qui a insisté pour faire venir également les troupes au sol et non le gouvernement malien. De plus, pris par le temps, car les terroristes descendaient assez rapidement, Paris avait largement pris le temps de renvoyer la demande d'appui donc aérien de Bamako, en insistant bien sur le fait que le gouvernement malien devait impérativement réécrire sa demande en incluant les troupes au sol et donc renvoyer cette demande à l'Élysée, mais également à l'ONU. Les termes du contrat étaient parfaitement bien préparés pour ne laisser aucun droit à l'État malien, comme par exemple si le matériel militaire français venait à être détruit ou endommagé, c'est l'État malien qui devait rembourser les dégâts. Ou encore, s'il y a des dommages collatéraux, comme par exemple la destruction de domiciles civils ou la mort de civils maliens, c'est l'État malien qui est responsable et aucunement l'État français. Le contrat de la France avait donc imposé à Bamako, donc, qui était donc totalement inégal et était complètement en la défaveur du Mali. C'est l'une des raisons pour laquelle la France n'a jamais été inquiétée pour les nombreux civils maliens qu'elle a tués ou les nombreux domiciles détruits. Et donc, on comprend mieux pourquoi la communauté internationale n'a jamais condamné les exactions des militaires français sur le sol malien. Partout sur le continent, la France recule. Les entreprises tricolores ont perdu la moitié de leur part de marché depuis 20 ans au profit de la Chine, de la Russie ou encore de l'Iran et de l'Inde. De Dakar à Niamey, en passant par N'Djamena, les manifestations de rue contre la France donc se multiplient. Dernier exemple au Tchad, le 14 mai dernier, quelques milliers de Tchadiens défilaient au cri de la France dégage et saccage donc 7 stations-service Total. La perte d'influence peut aussi se mesurer à la décision donc de 2 piliers de la francophonie, le Togo et le Gabon, d'adhérer en juin dernier au Commonwealth, comme le Rwanda l'avait fait en 2009. Bref, les Maliens ont crié haut et fort France dégage et la France a finalement succombé. Un clap de fin pour la France et les Maliens ont repris leur destin en main. Une quinzaine d'organisations de la société civile nigériane ont lancé en début août un mouvement dénommé M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, en vue de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Elles ont appelé à une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi, donc 17 août, à partir de 9 h, sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. La mobilisation annoncée donc pour ce 17 au Niger s'inscrit dans la dynamique observée au Burkina Faso voisin avec un rassemblement vendredi dernier dans la capitale. La police a dispersé vendredi à coups de gaz lacrymogène des manifestants qui tentaient de se rassembler à Ouagadougou pour protester contre la présence de la France au Burkina Faso. Rassemblés par petits groupes au rond-point des Nations Unies au cœur de Ouagadougou, les manifestants, dont certains brandissant des drapeaux russes, ont tenté de marcher en direction de l'ambassade de France avant d'être dispersés par la police. Ce rassemblement s'est tenu à l'appel d'une nouvelle coalition d'organisations rassemblée au sein du M30 Naaba Ouagadougou, donc au nom d'un ancien empereur Moussi qui s'était opposé à la France au XIXe siècle. Le M30 demande la rupture de tous les accords de coopération militaire et économique et la fin de l'expertise technique internationale. Une manifestation d'organisation de la société civile nigérienne, donc visant à protester contre la présence de Barkhane, a été interdite par les autorités du pays. La force française qui a achevé son départ du Mali s'est redéployée au Niger voisin. Après 9 ans de présence au Mali, Barkhane a quitté donc le pays ce lundi en libérant la dernière base de Gao. La force française a désormais établi ses quartiers au Niger, ce que n'entendent pas des organisations de la société civile nigérienne qui projettent d'organiser encore des manifestations pour protester contre la présence de l'armée française sur leur sol. Les autorités du Niger ont tout simplement interdit la manifestation annoncée pour le mercredi 17 août. Lundi soir, Oumarou Dogari, le maire central de la capitale nigérienne Niamey, s'est fendu d'un communiqué dans lequel il indique la marche à suivre d'un meeting que projette d'organiser le REPAT, donc le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement le 17 août, est interdite. Et pour justifier cette mesure, l'édile de la ville évoque des raisons sécuritaires, notamment troubles à l'ordre public. En réponse, le coordonnateur du REPAD a jugé l'interdiction de leur manifestation non conforme à la loi et compte attaquer cette décision du maire devant la justice. Nos avocats sont déjà sur le dossier, a poursuivi Abdoulaye Seydou, donc appelant les Nigérians à rester mobilisés. Et en début août, la CNDH, la Commission nationale des droits humains, avait déjà donné la voix pour dénoncer le redéploiement de Barkhane au Niger. En effet, cet organisme des droits humains avait dénoncé les multiples assassinats des populations civiles par la force Barkhane, chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire qu'elle estime conquis, pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, appelant à réitérer notre opposition à la présence militaire française dans notre pays. La CNDH avait exigé le départ immédiat de Barkhane. La mise à la porte des soldats français ouvrirait la porte pour le déploiement d'une base militaire russe dans le pays. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées, 42 soldats maliens ont péri le dimanche 8 août lors d'une attaque attribuée aux terroristes dans la ville et le camp de Tessit, dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Des notables de la localité y ont également perdu la vie. En revanche, une dizaine d'assaillants ont été neutralisés, annonce la même source. C'est la deuxième attaque d'envergure des groupes armés terroristes et de leurs commanditaires contre Tessit. Cette localité et son camp en ont fait l'objet en mars 2021. L'embuscade tendue à cette époque par les fantassins de Daesh avait occasionné la mort d'une trentaine de soldats maliens. Et la question qui taraude les esprits est la suivante. Mais pourquoi tant d'acharnement de ces forces du mal contre Tessit? Cette localité est la principale ville malienne dans la zone des trois frontières où les groupes terroristes en dépit des 9 ans de présence de Barkhane ont pu prospérer. La région est prospère grâce au trafic d'armes, de drogue, de cigarettes, de médicaments contrefaits. Tessit est aussi et surtout une zone très riche en ressources minières et d'hydrocarbures naturellement convoitées par ces insatiables et tyranniques prédateurs occidentaux. La France en tête, dont les autorités ont publiquement déclaré que le Mali payera cher son impertinence à leur tenir tête jusqu'à la rupture de coopération. Maintenant, Barkhane a définitivement quitté le territoire malien. Elle s'est repliée avec armes et bagages sur le Niger, un pays dont le pouvoir très hostile à Bamako est inféodé à la Macronie. À en croire des sources militaires maliennes, les groupes armés terroristes qui ont récemment attaqué Tessit sont arrivés de ce pays voisin, lourdement armés et munis d'une logistique sophistiquée. Ils auraient bénéficié d'appuis aériens d'un pays étranger, drones et hélicoptères. Et il est hélas fort à parier que les mercenaires recrutés, formés, motivés et mise en mission par ces Occidentaux, vont encore frapper des dispositifs militaires du Mali. L'attaque de Tessine n'est-elle pas visiblement l'ultime tentative de déstabilisation du Mali? Après les menaces françaises, les États-Unis ont pris le relais en interdisant publiquement aux pays africains de coopérer avec la Russie sous peine d'être considérés comme des ennemis. On veut empêcher les pays africains d'affirmer leur souveraineté diplomatique et économique. Et la seule façon pour le Mali de contrer ces menaces est certainement la concrétisation d'un véritable accord de défense avec la Fédération de Russie. Pourquoi ne pas lui accorder l'installation d'une base militaire dans le pays ? Eh bien oui, à force de vouloir imposer des choses aux Africains, il faudrait aussi les assumer. Une politique néocolonialiste et unilatéraliste n'amène évidemment rien de bon. Les pays comme la Russie, l'Iran ou la Chine ne sont-ils pas les alliés du moment ? Eh bien sûr que oui. Toutefois, certains souverainistes maliens ne seraient jamais en faveur d'une décision, donc des autorités de la transition qui autoriseraient sur le territoire malien l'établissement d'une base militaire de la Fédération de Russie. Alors que, dans le contexte d'insécurité grandissante qui prévaut dans le pays et la certitude que le terrorisme y sévissant est organisé et entretenu par des puissances étrangères obsédées par l'accaparement des richesses du sous-sol, impose une telle décision. Même si elle n'est pas forcément la panacée, elle serait logiquement l'ultime solution pour éviter la balkanisation du Mali et même de toute l'Afrique de l'Ouest. Faire donc venir des puissances étrangères, mais cette fois-ci réellement alliées et non des colons, pourrait non seulement être bénéfique pour l'Afrique, mais également pour ses mêmes alliés, d'où le terme « gagnant-gagnant ».
Le président de la transition du Tchad, Mahamad Idriss Déby, a appelé mardi 16 août le Sénégal à l'appuyer pour les prochaines étapes de la transition. En visite d'amitié et de travail au Tchad, depuis lundi soir, le président du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a eu un tête-à-tête mardi avec Mahamad Idriss Déby. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, le général Mahamad Idriss Déby a saisi l'occasion pour demander l'appui du Sénégal pour aller au bout de la transition. Dans son discours prononcé lors de l'audience accordée au président de la République du Sénégal, le chef de la junte tchadienne a sollicité l'appui du président sénégalais pour la poursuite de l'accompagnement politique de l'Union africaine au processus de transition, mais également son soutien personnel pour être le catalyseur dans la mobilisation des ressources requises afin de parachever les étapes restantes de la transition, en vue de déboucher sur un dénouement heureux, attendu, voulu et espéré de tous. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé l'ensemble de groupes rebelles tchadiens qui n'ont pas encore signé l'accord de paix de Doha à rejoindre le dialogue national inclusif afin que les conclusions de cette rencontre prévue le 20 août soient les meilleures pour le Tchad, les meilleures pour l'Afrique et donner le maximum de chances de parvenir à une paix globale, inclusive et durable. L'Union africaine a annoncé dimanche 14 août l'envoi d'une délégation au Tchad ayant pour mission d'évaluer la situation de la transition. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé lundi 15 août à Bamako la communauté africaine et internationale à soutenir le Mali dans sa lutte acharnée contre le terrorisme, soulignant la nécessité d'intensifier tous les efforts pour contrer ce fléau qui requiert des réponses globales. En tant que président de l'Union africaine et voisin, je suis venu apporter mon salut, ma solidarité au peuple malien et aux autorités de la transition, a indiqué le chef d'État sénégalais, cité par le communiqué appelant à l'accompagnement de la transition malienne. Des questions bilatérales, notamment d'ordre économique, ont été également au menu des échanges, selon la présidence. La visite du président sénégalais au Mali est la première depuis la prise du pouvoir par le président de la transition Assimi Goïta en mai 2021. alors que la Maison-Blanche rompt avec le désintérêt pour l'Afrique qui a caractérisé les années Trump et s'efforce d'y renforcer son influence sur le continent, Pékin met son appareil de communication en branle pour tenter d'affirmer sa supériorité sur le continent. Alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuivait sa deuxième tournée en Afrique depuis sa prise de fonction, la chaîne de télévision publique chinoise CGTN a publié le 11 août un sondage présentant l'empire du milieu comme la locomotive incontestée de l'économie mondiale, surtout aux yeux des Africains. Le sondage assure que 91,46% des personnes interrogées en Afrique pensent que la Chine est devenue le moteur de l'économie mondiale. La tournée d'Anthony Blinken sur le continent intervient 2 semaines après l'annonce par le président américain Joe Biden de l'organisation d'un sommet USA-Afrique en décembre 2022 pour démontrer l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et souligner l'importance d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes. Pour le continent africain, cette rivalité accrue entre les deux plus grandes économies de la planète pourrait être bénéfique à condition de définir une stratégie plus collective et plus claire pour tirer également profit de la multitude de partenaires internationaux potentiels. Au cours du mois de juillet 2022, les 3 producteurs de bananes en activité au Cameroun, à savoir la PHP, filiale de la Compagnie fruitière de Marseille, la CDC, Société publique, et la Bopla Natation ont exporté un total de 13 203 tonnes, selon l'Association bananière du Cameroun, Asobacam. En glissement annuel, cela correspond à une augmentation de 744 tonnes, plus 6%, par rapport aux 12 459 tonnes expédiées vers le marché international en juillet 2021. La filière doit principalement cette hausse des exportations à la CDC, révèle Investir au Cameroun. En effet, cette unité agro-industrielle contrôlée à 100% par l'État a vu ses exportations passer de 1012 tonnes en juillet 2021 à 1607 tonnes en juillet 2022. Cela correspond à une augmentation de 595 tonnes sur un an, soit 58,7% en valeur relative. La CDC, deuxième employeur camerounais après la fonction publique, a toujours du mal à se relever des ravages de la crise sociopolitique qui sévit depuis fin 2016 dans les 2 régions anglophones du pays. Selon les experts, cette augmentation est en effet due à la grande saison des pluies, très propice à une hausse de production.